et surtout pour la suite et la fin de notre rentrée littéraire.
Au revoir.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui s'occupe de l'orchestration musicale et que vous connaissez tous. Alors aujourd'hui, c'est une grande joie de faire une émission autour de Raymond Radiguet, du centenaire de sa mort et du centenaire de la publication du Diable au corps, en présence de Chloé Radiguet, qui est la nièce donc de Raymond Radiguet, et de Julien Sandre, qui est son coéquipier, pourrait-on dire, pour une biographie à quatre mains, je ne sais pas si on dit ça, ou une biographie à deux têtes. Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont. C'est une biographie, vous trouvez voilà, une somme très importante d'informations, de témoignages et une chronologie vraiment très soignée. Et puis les œuvres complètes aussi que vous avez co-édité l'un et l'autre, d'ailleurs. Les œuvres complètes définitives, d'après ce que j'ai compris, l'édition définitive des œuvres complètes de Raymond Radiguet, ça, c'est dans la collection, je crois, Les Cahiers Rouges chez Grasset. Hein. Alors, bonjour à l'un et l'autre.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour à l'un et l'autre. Alors, c'est vrai que Raymond Radiguet, c'est un peu, pour toute personne qui aime la littérature, qui passe par la case littéraire, ne peut être que sensible à Raymond Radiguet. C'est un personnage de roman. Avec ce que vous soulignez d'abord l'un et l'autre, dans le titre de votre biographie, Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, avec un paradoxe. C'est un paradoxe, Raymond Radiguet. C'est un mystère et un paradoxe. Le paradoxe, c'est que c'est à la fois quelqu'un de réservé et de surexposé. C'est quelqu'un qui est, comment vous dire, attendrissant et inquiétant, de sage et d'audacieux, de jeune et d'extrêmement mature. Il y a un côté, oui, singulier et universel chez Raymond Radiguet. Je dirais qu'il y a une double facette. Il y a le double, voilà, ce qui va bien d'ailleurs avec Cocteau, mais c'est la figure du double qui m'a interpellée dans votre biographie. Et aussi, ce titre qui est très beau, un jeune homme sérieux dans les années folles. Moi, j'ai pensé à son personnage du bal du comte d'Orgel, François de Sérieuse. Je ne sais pas. Mais il y a ce côté grave, la gravité de Radiguet. Je vais passer la parole à Chloé Radiguet. Vous êtes la nièce de Raymond Radiguet.
Oui, enfin, je suis une nièce de Raymond Radiguet, mais la seule qui s'est intéressée de si près et de si profond à son œuvre et à sa vie. C'est mon père qui m'a introduite, entre guillemets, à la célébration de Raymond. À 9 ans, il a commencé à me parler de Raymond, il n'a plus arrêté. Et voilà, j'ai pris des notes à partir de mes 15-16 ans. Ça nous a servi, on n'a pas fait une biographie universitaire, on nous l'a reproché. Mais ce n'était pas ce qu'on cherchait, c'était vraiment au plus près de la vie de Raymond Radiguet et de ses apparentes contradictions.
Oui, apparentes contradictions, c'est tout se recoupe finalement aussi. Hein. Et je dirais presque que vous tirez Raymond Radiguet aussi de la présence de Cocteau. C'est-à-dire qu'on voit vraiment toutes les rencontres qu'il a faites qui sont très importantes. Julien Sandre.
Oui, absolument. Il est vrai que on associe beaucoup, exagérément presque, Raymond Radiguet et Jean Cocteau. Ça s'explique par le fait que, après la mort de Raymond Radiguet, qui donc est mort très jeune, à l'âge de 20 ans, Jean Cocteau, qui avait beaucoup d'admiration, mais qui était aussi probablement épris de Raymond Radiguet, a contribué à ce que, à entretenir constamment sa mémoire, à l'entretenir en faussant un petit peu la nature de leur relation. Je crois que Raymond Radiguet, pour ce qu'on peut en savoir, ne l'ayant connu ni l'un ni l'autre, mais simplement après avoir lu des témoignages nombreux d'écrivains contemporains, mais aussi de compositeurs, de musique, de peintres, etc., on voit que Raymond Radiguet avait pour Jean Cocteau à la fois une immense estime pour l'écrivain Jean Cocteau, et aussi beaucoup d'affection, certainement, mais une affection, je dirais, plutôt fraternelle. Voilà. Raymond Radiguet aimait beaucoup les femmes. Ça fait partie aussi de son personnage. Et en effet, il a rencontré avant Jean Cocteau bien d'autres gens.
Bien sûr.
Ce n'est pas Jean Cocteau qui lui a fait découvrir le monde de l'édition.
Bien sûr.
Loin s'en faut.
Alors, ce que j'ai découvert dans votre biographie, c'est le travail. Parce qu'on a l'image de Raymond Radiguet, c'est le talent, c'est la grâce, c'est la fulgurance. Et là, je me suis dit quand même, entre 14 ans et 20 ans et demi, qu'est-ce qu'il a travaillé ? Il n'a pas arrêté d'écrire, il n'a pas arrêté d'écrire des correspondances, il prend le temps pour les autres de leur répondre. C'est quelqu'un qui gagne sa vie très tôt aussi, il faut le dire, hein, parce qu'il est l'aîné de 7 enfants, donc son père est caricaturiste. Chloé Radiguet, cette notion de travail, on voit que c'est quelqu'un qui se donne du mal, vraiment. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'efforts derrière tout ça.
Je ne crois pas qu'il se donnait du mal, justement. Parce que l'exemple de son père, qui tous les matins lisait la presse quotidienne pour faire des dessins pour le soir, plus tous les dossiers plus importants qui paraissaient dans d'autres que les quotidiens, pour lui, c'était naturel de travailler. Il a toujours travaillé. Et il est tout sauf paresseux, qui est une légende racontée aussi après sa mort, évidemment, par Cocteau. Il a vraiment... D'abord, il a eu envie de gagner sa vie, ça c'est vrai. Il a été secrétaire de rédaction dans deux magazines. Il a donné des dessins aussi là où son père en donnait. Et puis, il s'est mis aussi à écrire de la poésie. Et c'est comme ça qu'il a changé de journaliste. Il est passé à poète publié dans des revues. Mais le travail, ça lui venait. C'était pas un travail pour lui. C'était quelque chose qui le passionnait vraiment. Et quand on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler.
Bien sûr. Vous dites, après avoir été le secrétaire de rédaction de deux hebdomadaires satiriques, il fait paraître des poèmes dans diverses revues en 1918. Mmh. Écrire la même année sa première scénette est aussitôt publiée dans le Canard enchaîné, suivie de nombreuses articles. Et vous écrivez aussi par la suite, à l'opposé de sa réputation de paresseux, Raymond Radiguet nous a laissé près de 1000 pages. C'est vrai que on voit le pavé hein, quand même, c'est impressionnant. 1000 pages, étonnant, prolixe. Il aborda de plus tous les genres littéraires avec la même insolence et le même talent. Son œuvre, tout comme sa vie, est à la fois brillante et choisie. Et puis il y a cette phrase mise en exergue de votre biographie, l'originalité consiste à essayer de faire comme tout le monde sans y parvenir. Ce qu'on peut dire que Raymond Radiguet, c'est aussi quand même un objet littéraire non identifié. Enfin, il y a ce côté, je disais, cette singularité de Radiguet. Julien Sandre.
Oui, absolument. C'est quelqu'un qui... Je crois que c'est quelqu'un de fondamentalement curieux. Mmh. Il s'intéressait à tout, à tous, au monde qui l'entoure. Ça vient, comme Chloé l'a évoqué, de son enfance, de son éducation. Quand on est le fils d'un caricaturiste, le fils de quelqu'un qui suit l'actualité pas à pas, je pense qu'il y a de quoi susciter des vocations de curieux. Et donc Radiguet s'est intéressé très jeune, par le truchement de son père, au monde qui l'entoure. Ça s'est poursuivi sa vie durant, sa courte vie durant. Et en effet, il s'est intéressé successivement ou simultanément à la prose journalistique, à la poésie. Il
les contes.
S'est essayé, les contes d'abord, pour ce qui est de la fiction, les romans ensuite, un essai, du théâtre, enfin voilà. Et il s'est essayé un petit peu à tous les gens. Je crois qu'il est allé voir, il allait voir les autres et il allait voir aussi tous les genres littéraires. Il s'est essayé à peu près à tout.
Oui, en étant très lucide. Ce qui me frappe aussi, il y a le travail. Mais ce jeune homme sérieux, qui intrigue, qui fascine, et d'une grande lucidité sur lui-même, sur les autres, c'est frappant, Chloé Radiguet. Je trouve cette lucidité, on ne dirait pas qu'il est extra-lucide, mais il y a quand même une sorte de... Il a du sang-froid, il sait où il va.
Il a de la distance avec tout, il regarde tout d'un œil critique. Il ne parle pas beaucoup, ça frappe beaucoup les gens qui... Il y a beaucoup de gens bavards dans les milieux artistiques. Et lui, quand il est assis au café, il regarde au loin, il regarde apparemment sans voir alors qu'il voit tout. C'est un myope qui voit tout. Et puis, c'est aussi cette distance, c'est aussi, je pense, par l'éducation, d'une certaine manière, en partie. Parce que les autres frères et sœurs n'ont pas du tout eu cette distance. Mais, par exemple, ma grand-mère, elle était institutrice. Donc, c'est un autre pendant. Et tous les jours, à déjeuner, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de cantine à l'école, donc il rentrait même quand il était en primaire, et il entendait ses parents débattre du monde social dans lequel il vivait, de la politique, etc. Donc, c'est forcément, c'est formateur. Et puis, c'est vrai que la curiosité, il l'a eue tout de suite et elle a été encore attisée par tout ce qu'on lui apportait, comme sur un plateau.
Mmh. Et puis, il est banlieusard, on peut le dire. Hein. Il a sa mort. Il y en a un autre banlieusard célèbre, c'est Malraux. Donc lui, il va quand même à Paris. Il a des allers-retours entre Paris et sa mort. Sa mort, d'ailleurs, qu'il décrit, il y a le silence. Enfin, je ne sais pas, c'est une ville un peu au ralenti pour lui. Et c'est vrai que le silence, c'est un peu le compagnon de Raymond Radiguet, je trouve. Il y a ce grand silence, et alors qu'il va provoquer, autre paradoxe, beaucoup de bruit. Il y a ce côté-là. Donc il est le fils de Maurice Radiguet, hein, oui. Et de Jeanne Tournier. Et il fait un passage au lycée Charlemagne.
Bref.
La famille de Raymond Radiguet, c'est le dessin. Vous me parliez un peu hors antenne d'une tradition un peu anarchiste.
Ah oui, mon grand-père était anarchiste. D'aucuns prétendent que c'était de droite, mais moi je ne pense pas du tout qu'il est anarchiste de droite, parce que par exemple à l'assiette au beurre il a fait plein de numéros spéciaux, dont un consacré aux bagnes d'enfants, alors que dans les années 20 les bagnes d'enfants n'en parlaient pas. D'ailleurs on a commencé à en parler en 53, quasiment quand ils ont été fermés. Donc il était toujours à l'affût de sujets, et c'est vrai que ça a ouvert le champ des possibles pour Raymond, certainement.
C'est un être libre, libre penseur, Raymond Radiguet. Il n'est pas libertaire, lui. Il est hors catégorie, on va dire.
Il est seul sur sa route. Il est très accompagné, mais il est seul sur sa route. Et alors, pour quelqu'un qui est comme ça dans le silence, comme vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, chez lui, il n'y avait pas spécialement de musique. Alors que dès qu'il a rencontré Georges Auric,
oui,
qui, lui, était déjà musicien et critique musical, l'amitié lui a ouvert les portes de la musique. Après, il est allé, le groupe des Six, les concerts, l'opéra, les ballets, tout lui a été bon pour aller voir ici et ailleurs.
Ici et ailleurs. Alors, voilà ce que vous écrivez. Le silence, allié subtil du mensonge, entre ainsi en force dans la vie de Raymond. Parce que, bon, il y a des épisodes, il n'aime pas les enterrements, par exemple, ça nous parlait très long. Il y a cette notion de vitesse, mais en même temps, il prend son temps. Julien Sand, Raymond Radiguet, je vous disais tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien la littérature, qui a une exigence d'emblée.
Alors, en effet, il connaît bien la littérature. Là encore, c'est lié à sa famille, parce que quand il s'est fait renvoyer du lycée Charlemagne, et ça a commencé probablement avant, mais en tout cas, il s'est retrouvé dans sa famille, et là, c'est son père qui a pris en main, en quelque sorte, son éducation. Donc, d'une part, il lui a appris le latin, le grec, mais il l'a aussi incité, ou peut-être n'a-t-il pas eu besoin de l'inciter. En tout cas, il y avait dans la maison une bibliothèque considérable, et Raymond Radiguet a lu tous les livres, ou la plupart des livres de la bibliothèque familiale. Donc, il y avait certainement une prédisposition, un goût pour la littérature. Et ensuite, évidemment, la somme de ses lectures fait qu'il avait une connaissance importante de la littérature classique et contemporaine. Et il lisait aussi bien des classiques, donc, des livres importants, entre guillemets, que des romans populaires. Mmh. Enfin, vraiment, il était avide de lecture.
Oui, c'est, on sent ça, on sent cette soif de vivre et de connaître. N'aime pas les arts, voilà, a été précisé sur son livre.
À l'école primaire, il était très, très, très bien noté, il était très bon, il avait même des couronnes d'or, etc. Mais il était précisé sur son bulletin scolaire, n'aime pas les arts. Ce qui est très curieux, parce que je ne sais pas comment on peut savoir si, s'il n'est pas bon pour dessiner, ou je ne sais pas, mais il n'aime pas les arts quand vous avez 9 ans. Je ne sais pas si ça signifie grand-chose.
D'autant plus que le nombre de portraits de Raymond Radiguet vus par les peintres, il sert aussi de modèle aux peintres. Il connaît très tôt Juan Gris, hein, d'ailleurs.
Ah oui, c'est un ami de Maurice Radiguet, donc il vient dîner à la maison régulièrement, donc il le connaît bien. Mais quand il va prendre des cours de dessin poussé par son père, à Montparnasse, à la Grande Chaumière, à l'Académie Coallard aussi, il rencontre vraiment beaucoup de monde du monde des arts, parce que c'est un terreau à ce moment-là, juste après la guerre. Et là, il a 14 ans quand même.
Voilà, vous dites, Raymond, il retrouve Juan Gris, confrère et ami de son père, et fait la connaissance de Leipzig. Il fréquente les cafés, enfin le Dôme, la Rotonde, etc. Et c'est vrai que vraiment, on sent que c'est un... C'est pour ça, c'est une trajectoire particulière. Il est appelé, il est quand même appelé par son destin d'écrivain, et en même temps, il se construit. Vous dites, voilà ce qu'il dit, par exemple, nous demeurions au parc de Saint-Maur, j'y étais né et je n'en étais jamais sorti. Animal dans un parc, si bien que ce mot de parc était vrai pour moi, je m'y promenais comme une biche dans un parc, sans d'ailleurs un moment me croire emprisonné et soupirer au contraire. Donc il a hâte de reprendre sa liberté, de connaître, d'apprendre, avec une exigence, parce que, par exemple, vous parliez de ses lectures, jamais il a lu La Bibliothèque Rose.
Je ne crois pas.
Hein, non, ça, c'était pas Chloé Radiguet.
Les livres pour adolescents, il les a lus plus tard.
Plus tard.
Comme ça, sans doute pour quand même savoir de quoi il s'agissait. Et puis peut-être aussi pour se délasser, je ne sais pas.
Il faut dire que Raymond Radiguet a quand même un problème avec le temps. Très jeune, il est très vieux.
Oui, et d'ailleurs, il essaye toujours de se vieillir.
Voilà.
Quand il écrit à des gens comme Tristan Tzara pour proposer des poèmes, il dit qu'il a 17 ans, alors il n'en a pas 15, quoi.
Il dit souvent, quand j'étais jeune, à 17 ans, dit-il, j'ai cru savoir ce qu'était la vieillesse. Simplement une première vie où ma deuxième finissait. C'est fou, ça. Julien Sandre.
Mais je crois qu'il y a deux choses. C'est que, évidemment, il avait intérêt à se vieillir pour être plus crédible.
Oui,
les autres auteurs publiés dans ses revues littéraires, André Breton, Tzara ou d'autres, étaient tous évidemment beaucoup plus âgés. Donc pour être pris au sérieux, il fallait qu'il se vieillisse et même qu'il intervienne un petit peu sur son apparence. Il portait un grand par-dessus, il avait volontiers une canne, etc. Il s'était fabriqué un monocle avec une paire de lunettes. Bon, il essayait de se vieillir comme il le pouvait. Ça, c'est pour l'apparence physique. Mais je pense en effet que pour le reste, sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, il était infiniment plus vieux ou plus âgé, je mesure entre guillemets bien sûr, que les gens de son âge, en raison de cette expérience qui était la sienne, grâce à son père. Je pense qu'il a grandi vite, il était aussi l'aîné d'une famille, donc on fait peser sur les aînés une responsabilité particulière en général, et même très tôt. Donc c'est quelqu'un qui avait une maturité tout à fait étonnante, et son apparence physique ne correspondait pas à son âge mental, à son âge, à sa maturité. Aussi. Tout à fait.
Chloé Radiguet, comment vous parlez de Raymond Radiguet dans votre famille ? Vous vous souvenez des premiers échos que vous avez eus de votre oncle, finalement ?
Dans ma famille, ça va se réduire à mon père.
Oui.
C'est avec lui que c'est lui qui m'en a parlé au long des années, etc. Il intervenait dans les collèges, dans les lycées pour parler de Raymond Radiguet aussi. Donc j'ai pris sa suite. Mais c'est pour mes frères et sœurs, par exemple, c'est assez loin. Ils ne sont pas tombés dedans, ça. Et je ne sais pas. Moi, j'ai lu à 14 ans Le Diable au corps, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je me suis attaquée au bal du comte d'Angèle. Alors là, je n'ai pas du tout pu le lire. J'ai recommencé 3 ans plus tard, puis 3 ans plus tard. Et là j'ai enfin pu entrer dans ce classique. Parce que ce roman est très classique. Il est très inspiré
de
la princesse de Clèves, donc d'un autre siècle, etc. C'est une autre syntaxe, c'est une autre façon de parler de psychologie.
Oui, c'est vrai qu'en plus, il disait souvent mettre son chevalet devant un chef-d'œuvre. Donc, il avait mis son chevalet devant la princesse de Clèves pour écrire le conte du bal du comte d'Angèle. Oui.
Parce que dans un premier temps, en effet, il s'est intéressé au mouvement naissant littéraire contemporain. Donc, le cubisme. Par l'intermédiaire de Max Jacob, qui est la première rencontre véritablement déterminante dans la vie littéraire de Raymond Radiguet. Donc le cubisme, du cubisme au surréalisme, d'abord par le dadaïsme avant et le surréalisme après. Et puis il s'est rendu compte assez vite que c'était amusant. Il y a rencontré des gens qui sont restés ensuite évidemment durablement des amis, mais pour ce qui est de ses fantaisies, de ses tentatives littéraires, très vite, il a pensé que ça ne menait nulle part, que ça n'avait pas beaucoup de profondeur. Et il a même écrit que Dada est un cul-de-sac. Donc, il est très vite revenu, en quelque sorte, à ses premières amours, qui étaient la littérature classique.
Ouais. C'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'il est né en juin 1903, comme Marguerite Yourcenar, qui avait aussi cette éthique du classique. Donc, même si elle a vécu beaucoup plus longtemps, oui. C'est la même génération, si on peut dire. Peut-être un peu gidienne, je ne sais pas, mais de soif d'écriture classique, comme une épure, comme un dessin d'ailleurs, Chloé Radiguet. Il écrivait peut-être comme on dessine, sait-on jamais, Raymond Radiguet.
On retrouve dans son écriture ce regard extrêmement précis, acéré, vif qu'il avait sur le monde. Et en effet, il restitue la réalité avec beaucoup d'acuité. Lui qui était myope.
Oui.
Mais c'est ce regard et cette précision du regard et cette précision dans la restitution, en effet, comme le ferait un dessinateur.
J'aime mieux plaire que déplaire, voilà leur jeu. Déplaire, le mien, c'est de plaire sans tricher. Plaire sans tricher, aller à l'essentiel, avec presque... on n'est pas loin de l'eau de diamant avec Radiguet, c'est quand même très exact, très précis. On va faire une petite pause musicale et nous reprenons notre conversation.
Alors j'ai changé mon programme parce que vous avez parlé de Georges Auric et vous avez parlé de peintre et son modèle. Alors ben voilà, le peintre et son modèle de Georges Auric.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Chloé Radiguet et de Julien Sandre. Pour Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, c'est une biographie, ça vient de paraître chez Robert Laffont. Et puis si vous voulez vraiment avoir tout sur Raymond Radiguet pour compléter la bio, œuvre complète de Radiguet, avec je crois d'ailleurs la version du bal du comte d'Orgel, la version originale, hein, d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs sans les corrections de Cocteau. Qui était intervenu. On parle de Raymond Radiguet, de sa singularité, et cette singularité d'ailleurs, j'ai sous les yeux la couverture de votre livre avec la photo de Man Ray. On voit Raymond Radiguet avec son ombre. C'est une très belle photo. C'est vous qui l'avez choisie, vous en avez discuté avec l'éditeur. Chloé Radiguet, comment...
Non, nous aimons ces deux photos, deux photos qui sont sur les couvertures. Mais c'est l'éditeur qui a choisi la photo à chaque fois.
Très belle.
Les deux sont de Man Ray.
Oui.
Elles ont 2 ans d'écart et elles sont effectivement fort belles.
Elles sont très belles et on le voit, Radiguet et son ombre. Et la lumière d'ailleurs, parce que c'est un être de lumière. Il a attiré ce qui apparaît dans votre livre à tous les deux. C'est le nombre de personnes qu'il a connues. Moi, j'ai fait vraiment des découvertes. Par exemple, alors d'abord, c'est André Salmon, hein, si j'ai bien compris, qui va le présenter. On va faire un petit peu de chronologie. À Max Jacob, je crois.
C'est ça.
Julien Sandre, et puis après c'est Max Jacob qui va voir Cocteau, enfin voilà.
Oui, enfin, les grands traits, c'est ça. En fait, Raymond Radiguet donc allait porter les dessins de son père dans la rédaction des journaux. Il y a fait un certain nombre de rencontres, évidemment. Il a, comme le disait précédemment Chloé, proposé quelquefois des dessins de lui. Certains ont été publiés. Personnellement, je ne les trouve pas inoubliables. D'ailleurs, je pense qu'il a bien fait de devenir écrivain, peut-être, plutôt que dessinateur. Et il se trouve que, parmi ces rencontres qu'il a faites dans le milieu de la presse, il a rencontré André Salmon, qui était le rédacteur en chef à l'époque d'un grand journal, L'Intransigeant. Et il lui a montré, en plus de ses poèmes, de ses dessins, pardon, des poèmes qu'il avait sur des petits papiers bouchonnés dans ses poches. Il lui a montré quelques poésies. Et André Salmon a considéré qu'il n'était pas bon juge pour ce qui est de la poésie. Pour les articles, oui, mais pas pour la poésie. Et il l'a donc incité à s'adresser à Max Jacob, ce que Raymond Radiguet a fait. Pas tout de suite, d'ailleurs, il ne s'est pas précipité, mais il l'a fait, il a écrit à Max Jacob. Et il a joint à son courrier 2 ou 3 poèmes. Max Jacob en a été suffisamment frappé pour immédiatement répondre à Radiguet et lui donner un rendez-vous à Montmartre, où il vivait, donc chez lui, dès le lendemain. Et là, a vu le jour une amitié très forte et qui a duré jusqu'à la mort de Raymond Radiguet. Ils ont commencé à parler ensemble de littérature, à avoir une vraie relation. Raymond Radiguet y allait l'après-midi, quelquefois avec des amis. Il y est allé avec Francis Poulenc, par exemple, qui était aussi l'un de ses amis très tôt. Et Max Jacob, là, invité à des matinées poétiques qu'il organisait dans des galeries, une en hommage à Apollinaire par exemple, mais d'autres encore, et au cours de ces matinées poétiques ou de ces vernissages dans les galeries se trouvaient d'autres auteurs, parmi lesquels Aragon, Cocteau et bien d'autres. Et Max Jacob a pensé que ce serait intéressant que Raymond Radiguet montre sa poésie à Jean Cocteau. Et Jean Cocteau, qui était un peu plus âgé que Raymond Radiguet et qui était déjà un peu connu, qui avait publié dans nombre de revues, 1 ou 2 recueils. Et voilà, la rencontre s'est faite à ce moment-là, voilà, pour ce qui est de Jean Cocteau.
Alors là, je crois qu'on le dit à Jean Cocteau quand il arrive, un enfant avec une canne, parce que C'est vrai qu'il a, le costume d'un adulte. Et là, voilà, il y a ce décalage. Je dirais presque, c'est un personnage de conte de fées, quand même, Raymond Daradiguet. Il a un côté comme ça, pas, au début petit poussé, puis il s'aime bien, puis il rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Alors, qui sont tous fascinés par lui. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit la constellation Radiguet qui commence à se mettre en place. Dans votre biographie, en tous les cas, c'est assez saisissant. Hein. C'est ça que vous avez voulu montrer, Chloé Radiguet ?
Non, non, mais c'est juste la réalité, en fait. Ouais. Il a rencontré des gens qui se sont intéressés à lui, il s'est intéressé à eux, il y a eu des échanges. Jean Hugo et Valentine Hugo étaient très présents. Je ne sais pas, c'était comme si c'était tout naturel de rester dans le cercle de Radiguet une fois qu'on y était entré.
Alors avec les surréalistes, ça marche pas tellement bien. Alors je fais des bonds, hein, on fait des bonds dans le temps. Les surréalistes, ça marche pas tellement bien. Par exemple, voilà ce que dit Aragon de Raymond Radiguet. C'est ainsi quand j'entre en relation avec ce futur génie de poche qui n'est pas prêt de terminer ses exploits. Radiguet, voilà. Alors c'est vrai que Radiguet dit d'Aragon. Le soir où je fis sa connaissance, je le prie à cause de sa démarche pour un paon paré de plumes de l'oiseau bleu. Donc ça marche pas tellement avec les surréalistes. D'ailleurs, ils vont lui préférer, quand va sortir Le Diable au corps, ils vont lui préférer un tout autre livre. Donc ils vont pas le soutenir.
Probablement, ils lui en veulent aussi d'avoir déserté au fond les colonnes de littérature, etc., des autres revues surréalistes. Il a pris ses distances et au moment où le succès considérable du Diable au corps se produit, évidemment, ils ont tendance un petit peu à dénigrer ce livre parce qu'il va à l'encontre, en quelque sorte, des principes mêmes du surréalisme.
Oui, parce que la modernité, Radiguet a une modernité dans le fond, mais pas dans la forme. Il prend une forme classique, ce qui rend d'autant plus sa modernité, à mon avis, beaucoup plus forte, parce que la forme est classique, le ton et le style est un style vraiment classique, mais la modernité, elle est là. Alors, c'est vrai que Le Diable au corps, ça a été le premier, on pourrait dire. Est-ce qu'on peut dire que Raymond Radiguet, avec Le Diable au corps, c'est un peu le père spirituel de François Sagan? Parce que quand même, ça fait, c'est un produit publicitaire que lance Bernard Grasset. Vous dites, Le Diable au corps paru au mois de mars 1923, soutenu par une campagne publicitaire sans précédent. Une première dans les mondes des lettres qui vaut au jeune homme le surnom de bébé cadom de la littérature. Certains critiques sont choqués par ce tapage, d'autres, quelques écrivains établis, se piquant de moralité, s'indignent du contenu du livre. La France entière découvre le roman et le premier tirage est épuisé en une semaine. Faut le faire, hein. Raymond Radiguet est sacré prodige littéraire. Mais c'est vrai qu'il y a un côté Sagan, enfin, je ne sais pas, c'est François Sagan qui est la fille spirituelle de Raymond Radiguet, mais oui. Il y a un côté phénomène.
C'est forcément dans ce sens-là. Oui. En tout cas, François Sagan avait beaucoup d'estime, d'admiration et de sympathie même pour Raymond Radiguet, qu'elle n'a évidemment pas connu. Mais elle m'en a parlé à plusieurs reprises et vraiment, elle connaissait ses romans, elle avait une préférence d'ailleurs pour le bal du comte d'Orgel. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de savoir, peu de gens savent que il y a une adaptation cinématographique du bal. On connaît celle surtout du Diable au corps avec Gérard Philippe et Micheline Prel, mais il y en a eu aussi une du bal du comte d'Orgel. Avec Micheline Prel aussi.
Qui a joué beaucoup, Micheline Prel, pour Radiguet, enfin pour le...
Absolument, absolument. Et c'est François Sagan qui a écrit le scénario et les dialogues de l'adaptation du bal du comte d'Orgel. Donc elle avait vraiment une proximité où elle sentait peut-être, en effet, comme vous le suggérez, une parenté, quelque chose avec ce Raymond Radiguet, ce jeune homme qui a fait scandale avec un premier livre et qui est devenu célèbre dans le monde entier, très jeune, comme elle.
Oui, comme elle. Et alors, avec en plus, il l'a écrit très jeune, hein, ce livre, 17 ans.
Oui, il a commencé à prendre des notes, il avait vraiment 17 ans à peine.
Oui, oui.
Et puis il a écrit plus tard. Une première version, une deuxième, une troisième. Il réécrivait beaucoup, il retravaillait beaucoup. Et vous disiez tout à l'heure qu'il travaillait beaucoup, mais c'est vrai, travaillait aussi beaucoup l'écriture.
On sent qu'il a cette exigence, toujours, il va être à la hauteur des... Il y a une admiration chez lui, c'est quelqu'un non seulement qui est curieux, mais qui admire. Je pense que c'est ça qui a aussi a fait son succès dans le milieu littéraire, enfin avant qu'il soit célèbre, mais qui a fait qu'il soit admis dans le monde littéraire. Il y avait une sincérité dans l'admiration.
Oui, ça sûrement. Je pense qu'il avait beaucoup d'admiration pour Éric Satie, par exemple. Et Éric Satie, qui lui était donc en effet beaucoup plus âgé, parle très bien de ce jeune homme, Raymond Radiguet, qui, quand il arrivait, dit Éric Satie, pourtant Éric Satie avait la dent dure, c'était quelqu'un de très caustique, mais on sent que quand il parle de Raymond Radiguet, c'est avec émotion, c'est avec respect. Il y a cette anecdote que j'aime bien raconter, enfin je rapporte cette anecdote racontée par Éric Satie, qui explique que quand Raymond Radiguet entre quelque part, même dans une brasserie, dans un lieu public, ou dans un lieu où plusieurs personnes sont attablées, à peine est-il entré que le silence se fait autour de la table. C'est-à-dire que ce très jeune homme impressionne, mais il impressionne aussi Éric Satie, à qui il en faut beaucoup pour être impressionné.
Et oui, voilà, on écoute un peu d'Éric Satie, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Mais il a la note juste, il a l'oreille juste, Radiguet. Il sent les choses, il sent les êtres, il est... et d'autres amitiés, d'ailleurs. Son éditeur, Bernard Grasset, a vu... Je trouve qu'il a très bien vu la personnalité de Raymond Radiguet. Vous écrivez, tous les écrivains comprendront mon plaisir à trouver réunis en un seul homme deux éditeurs qui m'avaient toujours paru inconciliables, celui qui aime d'amour l'œuvre qui l'édite et celui qui lance les livres. À ce côté,
je crois qu'en effet, Bernard Grasset a vu entrer dans son bureau un jeune homme qui l'a impressionné, comme il impressionnait un peu tout le monde, ou qui l'a au moins étonné. Et puis, dès la lecture des premières pages du manuscrit du Diable au corps, il a eu la conviction d'avoir là un auteur, un véritable auteur, un auteur important, et il a misé beaucoup, en effet, au moment quand il a décidé de faire entrer Raymond Radiguet dans l'écurie Grasset. D'abord, il lui a donné des moyens financiers pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis, il l'a accompagné, il a fait retravailler la fin du roman à plusieurs reprises. Enfin, il y a eu... Là encore, il a fait un vrai travail d'éditeur. Et puis, il a finalement, sur ce livre-là, quand Le Diable au corps était achevé, décidé d'appliquer en France des techniques qu'il avait pu observer aux États-Unis, mais qui en France étaient complètement... inconnu, et il y a eu en effet une campagne de publicité sans précédent, un battage médiatique incroyable. Aux actualités cinématographiques, on voyait Raymond Radiguet signant son contrat avec Grasset. Il a fait des piles de livres ensuite dans les librairies. Enfin, c'était des procédés tout à fait modernes et qui eux-mêmes ont contribué au scandale du livre. On n'avait jamais vendu un livre comme ça. Et des écrivains plus traditionnels ou plus classiques, vivants, contemporains, ont fait le rapport entre une campagne publicitaire qui avait lieu au même moment pour un savant,
oui,
qui s'appelait Bébé Cadom. Et c'est pourquoi, en parlant de Radiguet, ces gens disaient le Bébé Cadom de la littérature, parce qu'il y avait vraiment une sorte de parenté dans la manière de lancer le livre comme un produit. C'était la première fois de l'histoire de l'édition française.
Ah oui, c'est le premier, bien avant François Sagan, Julliard, qui lance là, c'est Grasset, et c'est vrai que c'est le premier film, et on voit Radiguet un peu ébloui d'ailleurs par les sunlight, on voit qu'il est comme un oiseau qui craint un peu la lumière malgré tout, parce qu'il est très jeune et il faut quand même le faire, hein. Il faut quand même tenir... je ne sais pas quelle vision vous en avez, Chloé Radiguet, mais c'est vrai qu'il est, avec son regard myope, un peu inquiétant parfois,
Et un peu inquiet, pour le coup.
Oui, oui, un peu inquiet.
Oui, vraiment.
De ce qui lui arrive.
Ça l'a dépassé, ça, cette notoriété par la publicité seulement, d'abord, par les bonnes feuilles publiées dans des quotidiens, etc. Tout à coup, il était comme, je sais pas, livré en pâture.
Comme un objet de curiosité.
Voilà, c'est un objet, c'est un écrivain, mais c'est un objet, c'est le livre, etc. Et c'est vrai que ça lui a fallu beaucoup d'inimitié.
Oui, à tort, enfin moi je trouve à tort, parce qu'en plus c'était quelqu'un qui était très réservé, qui était justement l'inverse de quelqu'un qui, ne, même quand dans ses relations dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois ce qui a plu aussi, c'est qu'il ne cherche pas forcément à faire sa cour. Il y a une intégrité quand même, enfin je veux dire, il admire les écrivains, il va les voir, il met ses textes, mais il ne cherche pas spécialement à faire d'assister, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça.
Oui, oui. Non, mais c'est, en fait, ce qui l'intéresse, c'est que ces textes soient lus.
Voilà.
Éventuellement paraissent. Et par exemple, quand il rencontre Blaise Cendrars, il travaille pour Blaise Cendrars.
Oui, ça, c'est très intéressant.
Il travaille sur Paris par Monsieur de Balzac. Ils se fréquentent tout le temps. Ils partent d'un bar où ils ont été jusqu'au bout de la nuit, entre guillemets, et ils rentrent à pied dans Paris, comme ça, en bar, pendant tout le temps. Et il y a une... C'est un échange. C'est pas seulement Cendrars qui, du haut, sont déjà installés, entre guillemets, puisqu'il est directeur des éditions de La Sirène. Et c'est un échange. Et c'est pour ça aussi que c'est riche. Parce que Radiguet, lui, il écoute beaucoup. Il parle peu, mais il écoute beaucoup. Donc il apprend, il reçoit, il s'enrichit à chaque fois.
Ce que montre votre biographie, justement, il y a deux rencontres qui sont capitales, à mon avis. C'est l'amitié avec Kessel. Voilà ce que dit Kessel de Radiguet. Joseph Kessel dit avec admiration, il pouvait traîner de bar en bar, ne pas dormir des nuits entières, errer de chambre en chambre d'hôtel. Son esprit travaillait avec une lucidité constante, une merveilleuse et sûre logique. Donc c'est à la fois une force de la nature quand même, parce que faut quand même tenir, voilà. Et il y a et avec Cendrars. Alors Cendrars, c'est très intéressant parce qu'ils ont plein de projets ensemble. Sur notamment Balzac aussi, enfin y a, c'est fou quoi, le nombre de projets. Il lui sert à la fois de documentaliste,
oui, tout à fait.
C'est on regrette d'ailleurs, on l'aurait voulu voir ce qu'ils auraient fait ensemble encore.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'en effet, je pense que c'est quelqu'un qui se mettait pas du tout en avant en société, mais dans la vie en général, enfin. Pour Cendrars, par exemple, quand il s'est transformé en copiste, en quelque sorte, quand Cendrars a voulu faire son anthologie nègre, Raymond Radiguet allait dans des bibliothèques, pour le compte de Cendrars, pour copier à la main les textes qui figurent dans l'anthologie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc ça, c'est un travail, pour le coup, vraiment dans l'ombre. Alors, un travail... complètement effacé.
Et fastidieux, peut-être.
Fastidieux aussi, mais je pense qu'il était content de découvrir les textes qu'il copiait et que son amitié et son estime aussi pour Cendrars étaient bien sûr un moteur suffisant. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à être toujours au premier plan, à tirer la couverture à lui, etc. Pas du tout. Et ça, on peut le voir dans... Il acceptait volontiers aussi la collaboration, les œuvres de collaboration, pour le théâtre en particulier, mais aussi un essai avec Max Jacob, mais aussi un article, ça c'est plus anecdotique, mais quand même, sur Liszt avec Eric Satie. Enfin, cette émulation, ces amitiés qu'il nouait, produisaient aussi des choses, des œuvres de collaboration, aussi certains de ses amis musiciens comme Poulenc et Auric dont on a déjà parlé ont mis en musique certains de ses poèmes où il a écrit pour eux quelques vers en disant, il écrit par exemple à Auric, j'ai pensé que tu pourrais peut-être mettre en musique ces quelques vers, enfin, donc il est constamment dans la rencontre, dans l'échange, dans la collaboration, et ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à se... Oui, à se mettre en avant.
Il cherche, mais c'est des sortes de compagnonnage.
C'est ça.
Il y a à chaque fois, y compris d'ailleurs dans sa relation avec Cocteau, puisque Cocteau apprend autant de Radiguet que Radiguet apprend de Cocteau. L'un et l'autre, c'est le maître devient l'élève et l'élève devient un peu le maître. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un échange. Et il y a, à mon avis, il y a sans doute une influence même de Radiguet pour des livres comme Thomas l'Imposteur. Enfin, j'imagine l'incursion de Cocteau dans le domaine romanesque. C'est aussi lié à Radiguet, je ne sais pas si...
Oui, tout à fait. Les spécialistes de Cocteau, d'ailleurs, s'accordent à dire que sans Radiguet, peut-être Cocteau n'aurait-il pas écrit de roman. Donc, en effet, l'influence... Enfin, il y a un échange, vous l'avez très bien dit. Tout ça est réciproque. Et une estime mutuelle, réciproque aussi. Pas seulement de l'affection de part et d'autre, mais aussi de l'estime. Pour le travail, une émulation et l'un très certainement influençant l'autre d'une certaine façon, mais pas toujours dans le sens qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire du plus âgé vers le plus jeune, pour ce qui est de l'influence, mais aussi du plus jeune vers le plus âgé.
Qu'est-ce que c'est que les samedistes? C'est un groupe, ils sortaient le samedi, c'est ça, non?
C'est un groupe informel. Les samedistes s'appelaient les SAM, S-A-M,
oui.
Société d'admiration mutuelle.
Ah, ben voilà.
Alors, il y a là des écrivains, des compositeurs, des musiciens, etc. Ils vont d'abord prendre des cocktails chez l'un d'eux, des cocktails souvent préparés par Cocteau, dont on disait un Cocteau des cocktails. Des cocktails, là, un cocktail des Cocteaux. J'ai pas encore assez bu. Ensuite, on allait dîner dans le quartier, etc. Et puis, après, on retournait, on allait à la foire sur le boulevard, ou alors au cinéma, voir des charlots. Donc, ils faisaient plein de choses ensemble. C'est des gens qui travaillaient ensemble, toutes disciplines confondues, et qui étaient amis dans la vie aussi.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment...
C'est pour cette raison, je crois, que les échanges étaient si riches. Parce que c'était nourri intellectuellement, mais c'était aussi nourri affectivement. Que tout se mélangeait, et que c'était très important pour tous.
Voilà, c'est ça qu'on voit. Et alors, pour le Diable au corps, moi je me suis aperçue qu'en plus, il y avait plusieurs titres pour ce Diable au corps. Alors écoutez, c'est incroyable, la tête la première, la tête et le cœur, la ligne de tête et la ligne de cœur, l'éducation du cœur, le cœur est, les yeux secs, linge ingrat, et je crois que Emmanuel ou le cœur vert, c'était le premier, ça aurait dû être ça le titre du Diable au corps. Moi je préfère le Diable au corps. Qui a trouvé le Diable au corps? C'est Radiguet ou il a été, on lui a...
Alors ça, moi, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas si Chloé le sait. En tout cas, il a, comme tous les écrivains, on n'a pas toujours un titre comme ça qui s'impose d'emblée. Donc il a pensé à plusieurs titres, il les a consignés il a fait des listes, en quelque sorte, que nous avons en effet reproduites pour qu'on comprenne que...
La recherche.
Qu'il a cherché.
Voilà.
Mais pour... Je ne sais pas qui est responsable du choix définitif.
En tout cas, Radiguet avait choisi aussi le blé en herbe, mais Colette a sorti le blé en herbe
en 1923.
Juste avant, donc le blé en herbe.
Oui. Le vin, alors je crois qu'il y a les primeurs, le vin bourru et même le blé en herbe. Oui, exactement, mais c'est fou, quoi. Et d'ailleurs aussi pour le bal du comte d'Orgel, je crois que c'était le fantôme du devoir.
Tout à fait.
On préfère le bal du comte d'Orgel, quand même. C'est quand même plus, ça fait rêver. Alors c'est un roman d'amour, le Diable au corps. Donc son premier amour, je crois, c'est Alice Saunier, Chloé Radiguet. Alors il écrit, lui, avec cette lucidité qui ne le quittera pas, Raymond constate, de ce premier amour sans doute, je sortais transformée, mais pas de la façon que je croyais. Je n'en sortais pas homme, j'en sortais vieux, encore. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a on a l'impression qu'il y a des multiples vies dans cette jeune vie, à chaque fois. Il passe d'un état à un autre, et ce premier amour, donc, Alice Saunier, elle avait 9 ans plus que lui, je crois.
10 ans.
À 10 ans.
Oui, il la rencontre dans le train des théâtres, le train qui ramène Raymond Radiguet dans sa banlieue lointaine, qui est encore un peu la campagne. Le train des théâtres, il partait de Nogent et il allait jusqu'à la Bastille. Donc, il la rencontre sur l'Impériale. Elle est en compagnie de son père à lui. Ils se connaissent, elle dessine un peu, elle est institutrice, etc. Et là, les sens de Raymond Radiguet s'enflamment parce qu'elle était très jolie.
Ah, il y en a eu, alors, ses maîtresses de Raymond Radiguet, il y a eu un modèle, une femme de... Parce qu'elle était très liée avec Modigliani, hein, ça c'est quand même les...
Il l'a connue très jeune, quand il allait prendre ses cours de dessin...
Ou à la Grande Chaumière.
À la Grande Chaumière, ouais. Il a fait la connaissance, en effet, de Modigliani, qui a réalisé quatre portraits. Magnifiques, ça c'est aussi quelque chose que l'on sait peu. Mais Modigliani s'est beaucoup intéressé aussi à Raymond Radiguet, alors que là, vraiment, Raymond Radiguet était très jeune, il avait 14 ou 15 ans.
Donc il a été l'amant de Béatrice Hastings, par exemple.
Qui était un modèle, en
modèle. Après, il a eu une femme peintre, Irène Lagutte, je crois. Mmh. Oui, un peu. Bon. Mmh. Et puis la dernière, c'est Bronia Perlmutter. Avec qui il devait se marier, d'ailleurs, non, enfin,
il y avait... Oui, ils avaient évoqué le mariage.
Mmh. Oui. Donc c'était du sérieux, là, ça...
Ah oui, tout à fait. Bronia Perlmutter, qui est devenue ensuite Madame René Clair, le cinéaste. Et tout à fait, à la fin de sa vie, elle est décédée il n'y a pas si longtemps, à 100 ans à peu près, et elle a enfin accepté, à la fin de sa vie, de parler de Raymond Radiguet, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Je pense qu'elle a eu, évidemment, beaucoup de chagrin quand Raymond Radiguet est mort. Après quoi, après quelques temps, elle a refait sa vie avec René Clair et elle ne souhaitait plus du tout évoquer Raymond Radiguet. Mais finalement, Pierre Barillet, qui est un auteur dramatique, qui écrivait des pièces avec Barillet et Grédy, pour ceux qui se souviendront au théâtre ce soir et de ses pièces de boulevard, Pierre Barillet, qui était un ami de Bronia Perlmutter, a réussi à obtenir quelques confidences sur... sa relation avec Raymond Radiguet, mais qui en effet, enfin, ils auraient dû se marier sans doute et vivre ensemble.
Ouais. Et ce qui frappe aussi, c'est que finalement, Radiguet est vraiment un romancier né. Il déclare à un moment donné, il aime mieux écrire des romans que de les lire, finalement. Non, mais je crois qu'il le dit à un moment donné.
Oui, oui.
Il le dit.
C'est amusant d'écrire des romans bien plus que de les lire.
Oui, c'est ça. Donc on sent qu'il est vraiment, c'est un romancier, lui-même est un personnage de roman, et il y a ses femmes. Et il a eu un pseudonyme d'ailleurs aussi, je crois, que pour ses dessins, c'est ça, Chloé Radiguet.
Rachki ou Raymond Rachki.
Donc voilà, on va faire une pause musicale et puis nous reprenons notre conversation.
Alors, vous avez parlé de Poulenc, qui était un de ses amis. Eh bien, sonate pour clarinette et basson, c'est paru en 1922 et c'est une œuvre de jeunesse de Poulenc.
Et voilà, on discute toujours autour de la biographie de Chloé Radiguet et Julien Sand. Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, ça vient de paraître aux éditions Lafon. Alors c'est vrai qu'il y a Radiguet, voilà, il y a le mythe et la réalité. et le mythe a été entretenu par Cocteau, c'est d'ailleurs ce dont nous parlions tout à l'heure. Pour la musique, Julien Sand, vous me disiez quoi hors antenne, que là, vraiment, avec Poulenc, il y avait une amitié forte. Tout ça, ce qui est fascinant, c'est que ça se passe dans un laps de temps très court, 22, 23, ce qu'on appelle les années folles.
Absolument. Et Raymond Radiguet donc, a fréquenté beaucoup de musiciens. Il a quelquefois même écrit pour eux de la poésie en espérant qu'ils en feraient des mélodies, ce qui s'est produit avec Honegger, avec Millau, avec Poulenc, avec Auric. Il avait en effet un goût particulier pour les musiciens. Et puis, toujours ce rapport aussi entre la vie artistique, on pourrait dire parisienne, puisque tout ça se passait à Paris, sans jamais délaisser la vie familiale, la vie à Saint-Maur, où il revenait très fréquemment, la vie familiale, et ce soin qu'il portait à ses frères. Par exemple, il a fait intervenir Francis Poulenc pour qu'il trouve un emploi au père de Chloé, parce que Poulenc, vous savez, c'est devenu ensuite Rhône Poulenc, etc. Donc il était d'une famille d'industriels, et il a trouvé, par le biais de Poulenc, il a trouvé du travail pour ses deux plus jeunes frères. Deux frères ont été engagés chez Poulenc. Enfin, donc il y a la part mondaine, je dis ça de manière pas péjorative, mais si vous voulez, c'est par opposition aussi à la vie paisible dont il avait besoin. Il y a les deux choses. Il y a la vie artistique, les fêtes, les excès, les bars avec Kessel ou d'autres, les cocktails explosifs de Cocteau ou de Morand, etc. Le bœuf sur le toit, bien sûr, où il passait ses nuits, mais aussi des moments de grand sérieux, de grande solitude, de villégiature, pendant lesquels il écrivait, il ne buvait plus que du lait, il se levait très tôt, avec une vraie discipline de travail. Et aussi, il menait parallèlement aussi toujours cette vie de famille, avec beaucoup d'affection et de soutien effectif pour sa famille. De même que quand Bernard Grasset lui a alloué une somme d'argent, une sorte de mensualité, rente assez forte, il donnait de l'argent à ses frères et sœurs, ou un peu aussi à ses parents, pour aider la famille. Enfin, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui était présent sur des fronts très différents.
Oui, très différents. Il aidait Chloé Radiguet, c'est vrai, il était l'aîné.
Oui, il était l'aîné, il gagnait sa vie, encore plus quand il a effectivement signé ce contrat avec Grasset. Et à partir de là, c'est pas, il soutenait un peu ses parents. Il leur donnait 250 francs par mois, ce qui était presque le salaire d'un ouvrier.
Oui,
donc ça aidait considérablement, forcément. Effectivement, il a trouvé du travail à Paul et René. Et il a aussi offert une bicyclette à mon père, à Paul, pour qu'il puisse aller à son travail plus facilement, etc. Donc c'est vrai qu'il est attentif aussi à ses sœurs. Il y a une sœur qui s'appelle André, et qui, elle, est passionnée par la natation, etc. Donc il lui offre ses cours de natation, et quand elle a son diplôme, il lui offre des vacances au bord de la mer pour qu'elle aille nager ailleurs que dans la Marne.
Donc on imagine aussi la déflagration qu'a créé la mort de Raymond Radiguet au sein de la famille. Ça a dû être... On en parlait dans votre famille ou pas, ou c'est quelque chose dont on a... Est-ce qu'on en avait des souvenirs?
C'est une famille où on parlait peu des choses de l'affectif.
Ouais.
C'est le cas pour le père et la mère de Raymond, ça a été le cas pour mon père. C'est un peu des taiseux de l'affection. C'est à peu près la proportion inverse d'amour et de parole.
Donc on en parlait?
Non, pas tellement.
Pas tellement.
Non.
Et puis il y a eu d'ailleurs une jeune sœur qui est décédée juste un peu avant lui.
Oh, il y a eu deux jeunes sœurs qui sont mortes. Elles ont perdu des enfants. Et puis ils ont reperdu deux fils plus tard à cause de la guerre, parce que Paul et ses deux frères, Jean et Robert, faisaient de la résistance, des opérations de résistance. Que eux, ils étaient très jeunes, puisqu'ils sont nés en 22 et 24. Donc il y en a un que Raymond n'a même pas connu. Et autant Paul était prudent parce qu'il était plus vieux, autant eux ont été imprudents, se sont fait arrêter, ont été déportés, ils sont morts en déportation.
Oui, voilà. Donc il y a,
Il y avait quand même un courant de gauche entre guillemets dans cette famille, à part René qui était plutôt lui conservateur, on va dire.
Et puis alors comme moment où Paris le donc on a parlé du Diable au corps, toutes les réactions sont innombrables, mais il a, je pense que c'est après d'ailleurs, il n'a pas encore publié le bal du comte d'Orgel, mais il a déjà cette pensée-là. On lui dit, il répond, on lui reproche de ne pas être finalement un romancier visuel, de ne pas faire dans les 10 ce qu'on demande, la couleur des yeux de la princesse de Clèves. Enfin, je dis de mémoire un peu. Non, mais c'est, il va à l'intérieur. Ce qui l'intéresse, Radiguier, c'est l'intériorité, j'ai l'impression, c'est le.
L'analyse psychologique est vraiment ce qui le passionne. Et c'est un art extrêmement difficile, d'ailleurs, que de parvenir à restituer la complexité des sentiments, la nature des sentiments, le mode d'expression de ces sentiments entre les personnages. C'est d'une très, très grande profondeur. Il a fallu, en effet, qu'il regarde beaucoup, qu'il observe beaucoup, qu'il vive lui-même des relations amoureuses.
Toujours un peu triangulaire, hein, d'ailleurs.
Souvent
triangulaire.
Pour ensuite, c'est une chose que de le vivre, et c'en est une autre que de savoir en faire le récit. Il faut d'abord l'avoir analysé, et je crois qu'il avait ce sens profond de l'analyse.
Avec des couples, par exemple, Valentine et Jean Hugo, qu'il a aussi les deux Beaumont. Enfin, je sais pas, il est dans un certain milieu. Je dirais, c'est vraiment les années folles, parce qu'il côtoie tout. C'est un peu proustien, on dirait qu'il y a Proust meurt en 22, d'ailleurs. Radiguier en 23, mais je dirais presque que c'est la même époque qu'il meurt. Enfin, le même paysage, quelque part, sociologique, qui meurt avec toutes ces fêtes qu'il y a dans des hôtels particuliers.
Oui, les salons de Paul Poiret, de Gabriel Chanel, des Beaumont. Ces grandes fêtes, ces bals costumés, etc.
Mais il faut se rappeler qu'ils ont vécu 5 ans de guerre terribles, avec de grandes difficultés de tous ordres, et que juste après la sortie de la guerre, effectivement, Paris a éclaté en fête, parce qu'il y avait un besoin effréné de se distraire, de sortir, de danser, d'écouter de la musique, etc. C'était vraiment en réaction, je pense, à ces années si difficiles.
Alors quand, alors après, il va dicter en fait le bal du comte d'Orgel à Georges Auric, et je trouve que ça c'est une aventure extraordinaire. Parce que lui-même, Georges Auric, Georges Auric arrive le 12 juillet avec sa machine à réécrire Remington. Dans la journée, installée sur le balcon en bois au premier étage de l'hôtel, Raymond lui dicte pendant des heures la nouvelle version de son second roman. Le pianiste se souvient de cet exploit. C'est pendant le travail devenait souvent d'une longueur qui risquait d'apparaître désespérante. Je n'ose. Voilà. Et lui, à chaque fois, il dit à la fin, je me réjouissais à la fin de chaque page, me demandant qu'a commencé la suivante. Donc, il assiste à la naissance du bal du comte d'Orgel, Georges Auric. Et je trouve ça un moment à la fois d'amitié, de créativité, d'inventivité, d'audace aussi, parce que quand même.
Et Georges Auric qui explique avec beaucoup d'humour qu'il a troqué le clavier du piano contre celui de la machine à écrire Remington.
Raymond lui ayant assuré que, puisqu'il était pianiste, il savait taper à la machine.
Voilà.
Mais c'était plus difficile pour Auric de taper à la machine.
Donc il disait, mais c'est fou, quoi, il le tape le temps d'un été, si je comprends bien.
Oui.
Hein, ça va aller très vite, d'ailleurs. Et puis, il y a l'autre visage de Radiguier. Des fois, il a des colères. Cocteau est un peu stupéfait par son changement d'humeur. Il dit qu'il avait la figure d'un meurtrier inoubliable de Radiguier à certains moments. Alors, on se demande si Cocteau n'a pas retrouvé en lui la figure de Dargelos. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Il a un côté mauvais garçon aussi, Radiguier.
Oui, mais les mauvais garçons sont des bons compagnons.
Voilà.
Parce qu'il est à la fois, je crois, dans l'œuvre de Cocteau ensuite, il est à la fois l'ange Hurtebise.
Voilà.
Donc ce personnage qui est la perfection même, en somme, et la lumière et la douceur, et puis la part d'ombre, c'est en effet Dargelos.
Ouais,
je crois qu'il est Radiguier et les deux. C'est la part d'ombre de Radiguier aussi.
Il y a ça. Et puis alors, des scènes absolument un peu prémonitoires chez Jean Hugo. Enfin, il y a une scène où, je ne sais pas, ils font tourner les tables, etc. Là, on est Radio Libertaire, nous n'allons pas en parler, nous ne faisons pas tourner les tables. Mais c'est vrai qu'il y a là comme la prémonition de son... Enfin, il y a des ombres au tableau, on va dire, il y a des ombres au tableau. Et il y a des choses très émouvantes, justement, dans votre livre, c'est les témoignages de tous ceux qui l'ont connu. Jean Hugo, c'est très émouvant, je trouve, hein, le témoignage. Parce qu'en plus, c'est avec Valentine Hugo. C'est en se baignant avec Valentine Hugo qui va attraper donc la fièvre.
Ils ont tous les deux.
Tous les deux, oui. La fièvre typhoïde. Simplement, il aurait dû suivre le médecin de Valentine Hugo, puisque oui. Là, ça a été mal diagnostiqué, c'est ça, hein, Chloé Rani.
Oui, alors Valentine Hugo, elle est repartie au Metfourque, dans la propriété des Hugo, et là-bas, on l'a soignée tout de suite. Mais Radiguet est rentré à Paris, il ne s'est pas soigné parce qu'il avait l'impression d'avoir, je ne sais pas, une grippe, et il était jeune, et voilà, un peu insouciant, sans doute, vis-à-vis de sa santé. Et quand Cocteau a dépêché son médecin, le médecin en question a diagnostiqué une grippe, justement, et a prescrit des grogues et des piqûres d'eau salée dans les fesses, parce que c'était un moment où il était très mondain et où ça partait très bien, voilà.
Ouais.
C'était très à la mode. Et quand le médecin de Chanel est venu le voir, il a tout de suite vu que c'était une fièvre typhoïde, il l'a tout de suite fait entrer en clinique, mais il était déjà trop tard.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment le... D'ailleurs, il a eu, il le dit, je pense qu'il y a un témoignage de Cocteau, hein, où il dit, il sent que la mort va arriver, il l'a vu venir, la mort. Hein. Il lui dit d'ailleurs, écoutez, me dit-il, le 9 décembre, écoutez, c'est une chose terrible, dans 3 jours, je vais être fusillé par les soldats de Dieu, comme j'étouffe de larmes, vos renseignements continuatifs sont moins bons que les miens, l'ordre est donné, j'ai entendu l'ordre. Bon, voilà.
Excusez-moi. Je voudrais préciser que dans la famille de Radiguet et Radiguet lui-même, la religion ne tient aucune place.
Oui, voilà.
Dieu ne tient aucune place. Et ces paroles sont d'un très joli poème, d'ailleurs, de Jean Cocteau. Mm. Mais il n'a pas pu écouter les dernières paroles de Radiguet pour la simple raison que Radiguet est mort à 5 heures du matin, seul dans sa chambre.
À la
clinique. Et que Cocteau et sa maman sont venus à la clinique plusieurs jours durant, mais ils ne sont jamais allés dans la chambre de Radiguet parce que la typhoïde est une maladie très contagieuse. D'ailleurs, sa mère, Jeanne, qui est allée à son chevet, a attrapé une forme légère de la typhoïde et a été soignée tout de suite, évidemment, puisqu'elle était dans la clinique. Donc là, c'est vraiment de la poésie pure,
oui.
Mais ce n'est pas la réalité.
C'est pas la réalité.
Non. C'est qui entretient la légende. Voilà,
c'est la légende, la mythologie entretenue par Jean Cocteau.
Voilà.
Et Jean Hugo, et dans son journal, c'est très émouvant. Le ciel était lourd et gris, une tristesse flottait dans les rues. Radiguet nous accompagna jusqu'à notre porte, tandis qu'il s'éloignait dans l'étroit couloir au tapis rouge, une lampe au plafond cachée par une corniste et jusqu'au-dessus de sa tête éclairait violemment ses traits, métamorphosa son visage que je ne devais jamais revoir. On sent un réel attachement, hein, du couple.
Oui, oui, oui.
Ils sont très, très attachés les uns aux autres.
Oui.
Et Jean Hugo et Valentine Hugo disent qu'ils étaient comme des frères tous les trois. Et je crois que c'est vrai qu'à Paris, il n'avait pas de frère. Donc, il avait une nouvelle famille.
Et il faut dire que quand il est mort, pour ses obsèques, il y avait des fleurs blanches partout. Enfin,
Ça, c'est parce qu'il était mineur.
Oui.
Et que donc, tout était en blanc. Mmh. C'était les tentures, les fleurs, etc. Et mon père m'a parlé, alors, par contre, de l'enterrement et du Père Lachaise, où il y avait tellement, tellement de belles dames qu'il était ébloui. Il en oubliait peut-être son chagrin momentanément.
Ouais, c'était quand même, ça a marqué. Les obsèques de Raymond Radiguet, ça a été un événement. Ça marque. Je ne dirais pas qu'il est enterré comme un prince, mais il y a un peu
mais
ce côté-là.
Il était à ce moment-là, il faut voir qu'il était au comble, si on peut dire, de sa notoriété. Et tous ses amis qu'il avait dans le monde des lettres et des arts étaient là, bien sûr, plus un public nombreux d'anonymes aussi qui venaient célébrer, rendre hommage à ce jeune auteur qui les a tellement fait rêver et dont on a tellement parlé.
Ouais. Et un mois avant la mort de Radiguet, il y a la mort d'Emmanuel Faye ou Faye, je ne sais pas,
Faye.
Le 12 novembre, il faut le faire, hein, juste un mois avant. Et Raymond Radiguet, d'ailleurs, il a beaucoup de chagrin de cette mort. Et Emmanuel Faye, je crois qu'il était très épris de Cocteau. Enfin, c'est très étrange. Enfin, ils sont tous liés les uns aux autres. Et il est mort, je crois, aux États-Unis.
Oui, il s'est suicidé aux États-Unis. Ouais. Et c'est son frère Bernard Faye, qui d'ailleurs avait rapporté le prix du Nouveau Monde, qui a couronné Radiguet, qui a ramené son frère, etc. Enfin, voilà. Donc, Radiguet était vraiment terrassé de chagrin.
Oui, c'est terrible.
Et il a dédié un poème qui s'appelle Amélie. Mmh. Il a donné à Bernard Faye ce poème, qui, curieusement, lui a dit « C'est le meilleur portrait d'Emmanuel que je connaisse ».
Vous voyez, donc mais c'est toute une génération aussi. Il faut dire que c'est tout un groupe de créateurs. Ils inventent une époque. On peut dire qu'il y a une époque Radiguet, Julien Sandre. Il y a une génération Radiguet. Il y a une époque.
Oui, génération Radiguet, sans doute. Dans laquelle Radiguet était le plus jeune d'entre tous.
Oui, c'est ça.
Mais en quelque sorte. En tout cas, à la lecture des témoignages auxquels vous faisiez allusion, on a l'impression qu'il les a tous impressionnés, qu'il était un petit peu, bien qu'étant le plus jeune, un peu leur maître à tous.
Ah bah, c'est absolument, parce qu'on lit, par exemple, bon, bien sûr, ça c'est Cocteau. Radiguet était trop libre et c'est lui qui m'a appris à ne m'appuyer sur rien, ça c'est Cocteau. Mais il y en a d'autres, il y a Anna de Noailles aussi. Radiguet est mort dans sa jeune acidité, reste dans sa maturité. Voilà, ou alors il y a encore Edmond Jaloux. Radiguet n'avait rien à faire avec notre époque, ça c'est très important. Il n'avait rien à faire avec notre époque. C'était un de ces hommes heureusement doués qui ont la chance d'être nullement influencés par l'air qu'ils respirent. On dirait qu'il y a un côté atemporel, c'est peut-être pour ça qu'il est devenu un classique. Chloé Radiguet, ce côté hors du temps, qu'on retrouve dans le bal du comte d'Orgel d'ailleurs, oui. Hors du temps.
On retrouve aussi, d'une certaine manière, dans le Diable au corps, de manière un peu opposée, mais c'est la même chose, entre guillemets. Oui. C'est les deux faces.
Je crois que c'est cette liberté extraordinaire qui était la sienne, qui fait qu'il a fasciné autant, qui a donné aussi ses allures de modernité, en quelque sorte, ou d'intemporalité, pardon. Et cette liberté, évidemment, est marquante, elle est déterminante, c'est elle qui fait les grands auteurs, c'est elle qui fait les grands personnages, d'ailleurs, pas seulement, évidemment, dans la littérature, mais ce côté franc-tireur, ce côté se moquant, finalement, du point de vue des autres, étant d'ailleurs aussi insensible aux compliments qu'à la critique, quand il a été auréolé, baigné dans les compliments au moment du Diable au corps, à aucun moment il n'a perdu la tête, il est resté égal à lui-même. C'est vraiment quelqu'un qui avançait de son propre chef et sans se soucier ni du qu'en dira-t-on, ni des influences, ni des modes, de manière vraiment singulière. Et ces gens-là sont rares et on s'en souvient.
On s'en souvient, c'est-à-dire qu'il imprime bien, Radiguet, au propre comme au figuré, il imprime bien. Et puis alors, la postérité de Radiguet. Mishima, ça c'est très important, Mishima. Je parlais tout à l'heure de Marguerite Yourcenar, mais il y a Mishima qui a été très impressionné par la lecture, je crois, du bal du comte d'Orgel. Et non,
je crois que c'était le Diable au corps.
C'était le Diable au corps, alors
non, parce que c'était...
En tout cas, je ne sais pas, mais en effet, le Diable au corps a été traduit dans le monde entier.
36 langues.
Il faut le faire.
36 langues, c'est en effet
rare
assez rare.
À cette époque-là.
Même encore aujourd'hui, 36 langues, c'est vraiment beaucoup. Et il a impressionné, en effet, beaucoup d'autres auteurs qui presque se revendiquent d'être devenus écrivains presque grâce à lui. En tout cas, Sagan disait ça. Mm-hmm. Plus proche de nous, Amélie Nothomb, quand elle vivait elle-même au Japon. J'y pense à cause de Mishima.
Oui, voilà.
A lu dans la bibliothèque paternelle le bal du comte d'Orgel et elle dit que ça a été tout à fait déterminant. Quand elle a lu ce livre, elle s'est dit mais moi aussi je voudrais écrire des livres comme ça. Donc en effet, il a suscité certainement des vocations et impressionné des écrivains dans le monde entier.
Puis c'est aussi alors les échos de lecture, parce que ça n'arrête pas dans votre livre, je vous dis ça pour les auditeurs qui vont vous découvrir votre livre. Par exemple, Madame Cocteau, elle a mis du temps à reconnaître Radiguet. Puis à la fin, pour le bal, le nouveau livre de Regdi part d'une manière prodigieuse, je m'incline, c'est sur le gratin, plus beau que Proust et plus vrai que Balzac. Non mais c'est marrant parce qu'on voit l'évolution, je crois que quand vous regroupez Chloé Radiguet, tous ces témoignages, vous avez dû voir l'évolution un peu aussi d'une époque, d'une lecture d'un auteur, d'un écrivain. Non, il y a ce sorte d'évolution qu'on voit dans le regard qu'on porte sur lui.
Oui, tout à fait. Mais je crois que Madame Cocteau, au départ, s'est dit qui est ce jeune homme habillé bizarrement. Elle l'avait vu, elle aussi, dans le hall.
Le jeune homme, avec une canne,
etc. Elle a dû le trouver un peu curieux. Elle a dû penser que son fils avait une fréquentation un peu étrange. Et puis finalement, au fil du temps, elle s'est rendue compte que c'était un écrivain qu'elle était même susceptible d'estimer elle-même. Et la lecture du bal, en effet, l'a impressionnée.
Ce qui m'a aussi fascinée, c'est qu'il préparait des fiches de documentation pour une biographie romancée de Charles d'Orléans. Alors ça, moi, je trouve ça assez fascinant. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà, les fiches de documentation, on pense que l'influence de Sandrart, ça a joué. Donc, du coup, dans sa façon de travailler, il avait quand même, il y a un côté autodidacte aussi chez Radiguet.
Oui, pour le bal du comte d'Orgel, par exemple, il a demandé à son père de la documentation sur la famille de sa mère, parce qu'elle venait des îles, enfin, elle avait un rapport lointain avec les îles. Et donc, il s'est basé sur cette documentation solide pour faire l'entourage de l'héroïne du bal du comte d'Orgel, de Mao. Et c'est vrai que la documentation faite pour les autres a dû l'aider à formaliser la sienne, et il a pris ce pli et il a appliqué les règles.
Chloé Radiguet, les documents écrits, il y a aussi des lettres, je sais qu'il y a eu un livre.
On a publié en 2012 les lettres retrouvées, il y en avait 140. Julien en a retrouvé encore un certain nombre. On ne désespère pas de publier un volume plus complet de lettres. C'est intéressant parce qu'il s'adresse évidemment à des artistes, à des auteurs, mais aussi à sa famille, à ses amis, et y compris à Madame Cocteau. Il écrit plusieurs lettres et on voit bien que c'est dans un respect vrai, etc. C'est pas quelqu'un qui fait sa cour, c'est quelqu'un qui discute, qui disserte. Ça dépend des moments, mais il écrit à des personnes très très différentes et sur très très de très différents niveaux de ton.
Donc il y aura peut-être un second volume, peut-être.
Peut-être une édition augmentée de ces lettres retrouvées. Alors, contrairement aux œuvres complètes, ça ne sera jamais une édition définitive, parce qu'évidemment, on ne retrouvera jamais toutes les lettres, ça c'est sûr. Mais en effet, il y a pour le moment, je pense 160 lettres ou quelque chose comme ça.
Ce qui nous a été reproché, c'est de ne publier que les lettres de Radiguet, sauf que quand on a voulu faire une correspondance de Radiguet, aucun des ayants droit des gens qui avaient été les amis de Radiguet et de Cocteau, sans doute, n'a voulu que la correspondance apparaisse. On a donc publié seulement les lettres de Radiguet, en disant toujours qui était évidemment le correspondant,
oui,
etc.
En établissant des notes pour resituer.
Que le lecteur puisse resituer et comprenne.
Ça prend du temps, tout ça. Comment d'ailleurs vous êtes... parce que ça prend du temps. C'est toute une vie de recherche aussi. Comment vous vous êtes répartis les tâches l'un et l'autre, Chloé Radiguet et Julien Sandre?
On ne s'est pas vraiment répartis les tâches. Travaillé beaucoup ensemble.
Oui, on n'a pas vraiment fait de plan. Ça s'est fait de manière un peu empirique, comme ça. Et chacun cherchant des choses de son côté, chacun apportant les choses à l'autre. On en parle, ensuite on voit ce qu'on retient, ce qu'on en fait. Donc ça vaut pour les textes, ça vaut pour des lettres, ça vaut pour des mentions de Radiguet ou des anecdotes dans des lectures respectives qu'on peut faire. Donc non, il n'y a pas vraiment une méthode.
Est-ce qu'il y a un écrit un chapitre, l'autre non. Alors c'est ça qui m'intrigue, moi. Comment en fait
Nous aussi, ça nous intrigue.
Lecture. On se corrige l'un l'autre, on ajoute, on enrichit, on se fait relire.
le texte n'est pas du tout, ne reflète pas du tout la manière d'écrire de Julien ni la mienne.
C'est ça.
C'est tout à fait, c'est un objet tout à fait indépendant.
Cette écriture ne nous ressemble vraiment ni à l'un ni à l'autre.
C'est un
une écriture commune.
Ah oui, c'est vraiment un mix.
C'est un cocktail.
Exactement.
Non mais ça m'intrigue.
En quelque sorte. Alors, pour les heures complètes, bien sûr, c'est tout à fait différent. Là, on a fait un travail systématique de recherche. On s'est transformé en rat de bibliothèque, etc.
Souris.
En souris de bibliothèque, d'accord.
Parce que...
et voilà. Et puis, on tire des fils. Vous savez, quelqu'un fait allusion à un texte qu'il aurait lu. On ne le connaît pas. Pour les articles, on est allé à cette bibliothèque de la presse. On a épluché tous les journaux de l'époque. Feuille à feuille, les quotidiens, en espérant trouver quelque chose de Radiguet. C'était avant que tout ça soit informatisé. Enfin, on a fait un long travail aussi de chercheurs, de recherche.
De recherche. Pour les œuvres complètes, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Donc, j'ai noté ce qu'on peut dire aux auditeurs. Qu'est-ce qu'il y a de...
Alors, ce qu'on connaissait jusqu'alors, c'est surtout les deux romans dont nous avons parlé. Et puis aussi un recueil de poésie qui avait été publié après la mort de Radiguet chez Grasset, qui s'appelle Les Joues en feu. Mmh. Mais là, nous avons publié un très très grand nombre de poèmes qui ne sont pas dans Les Joues en feu, des poèmes publiés en revue, notamment, et puis d'autres recueils que Radiguet avait composés mais qui étaient restés inédits, donc qui se trouvent là. Le théâtre était pour partie inédit. Des cahiers que nous avons trouvés, des dossiers que nous avons retrouvés dans un grenier, dans le grenier de la maison de Cocteau, à Milly-la-Forêt. Il y avait dans le grenier un carton sur lequel il était écrit Raymond. Alors nous avons exploré ce carton, photocopié tout ce qui s'y trouvait et ensuite décrypté. C'était des manuscrits de Radiguet, donc on les trouve à la fin du volume.
Oui.
Et là, il y a de la prose, de la poésie, des contes, des réflexions, des notes. Les notes pour ce projet sur Charles d'Orléans, dont vous avez parlé, et bien d'autres choses. Donc on arrive à plus de 900 pages.
C'est
une œuvre considérable, avec tous les genres de l'écrit, tous les genres littéraires rassemblés. C'est ça aussi qui est très étonnant.
Ouais, à 20 ans et demi. Tout ça.
C'est ça. C'est vrai que vous avez raison de dire 20 ans et demi, parce que 6 mois à cet âge-là, ça compte.
Ça compte.
C'est du temps, vraiment du temps.
20 ans et demi, c'est fou. Est-ce que votre vision à l'un et l'autre a évolué sur Raymond Radiguet, Chloé Radiguet?
Je crois que la vision de Julien a beaucoup évolué, parce que quand je lui ai proposé de travailler sur les œuvres complètes de Radiguet, il s'est dit que deux romans et un recueil de poèmes, ça allait être vite fait. Moi, je savais qu'il y avait plein de choses partout éparpillées.
Oui.
Donc oui, sa vision a dû évoluer beaucoup.
En effet, je me suis dit, bon, un écrivain qui est mort à 20 ans, je ne vais pas en avoir pour trop longtemps.
C'est ce qu'on se dit quand on est biographe.
Donc je vais le faire, et d'une part par amitié bien sûr pour Chloé, mais aussi parce que j'avais moi-même lu Le Diable au corps adolescent, ensuite Le bal des Grandes Orgelles, donc aussi avec estime pour l'auteur, mais je n'imaginais pas que tout ça prendrait un peu plus de 30 ans, parce que nous avons commencé à travailler sur Raymond Radiguet en 90.
Oui.
Voilà,
3 ans,
voyez, donc ça fait 33 ans.
Est-ce qu'il a eu un purgatoire, Raymond Radiguet? Est-ce qu'il y a eu des périodes où on l'a moins lu que maintenant? Ou au contraire, il y a toujours eu un mystère Radiguet?
Mais il est passé de l'enfer des bibliothèques au programme scolaire en 73. Et maintenant, il n'est plus au programme scolaire, mais j'ai rencontré plusieurs profs qui m'ont dit qu'ils continuaient à le proposer en lecture à leurs étudiants, donc je ne crois pas qu'il ait vraiment eu de purgatoire.
Non, il n'a pas eu le temps.
Par contre, ce qui n'a jamais été mis en lumière, c'est ce dont on vient de parler. C'est l'œuvre poétique, ce sont les essais, etc., ces choses-là. Et même le théâtre. On serait ravis que, suite à cette édition définitive des œuvres complètes, des metteurs en scène, enfin, et l'idée de jouer le théâtre de Radiguet, qui lui est complètement oublié aujourd'hui. Il a été joué de son vivant, certaines des pièces d'ailleurs ont fait un peu de bruit, un peu de scandale, Les spectateurs quittant la salle, furieux parce que c'était trop transgressif ou trop moderne, enfin. Mais aujourd'hui, le théâtre de Radiguet est oublié. Je crois que le théâtre de Radiguet est vraiment encore dans une sorte de purgatoire.
Bon, bah justement, c'est bien, on a un petit bout de purgatoire, ça entretient la découverte, c'est formidable. Vos conseils de lecture à l'un et l'autre, pour un jeune lecteur qui nous écouterait aujourd'hui, qu'est-ce que... Bah, le Diable au corps
Moi, je crois qu'un jeune homme qui... Je vais remonter dans ma mémoire l'époque où j'étais moi-même un jeune homme, c'était il y a fort longtemps, mais j'avais une prédisposition à la poésie. Bon, donc évidemment, je conseillerais de lire la poésie, peut-être de Radiguet pour commencer, mais autrement, bien sûr, le Diable au corps, qui met en scène le personnage principal et lui-même un adolescent, donc il y a une identification assez forte qui se fait au moment de la lecture. Enfin, moi, c'est un personnage transgressif qui m'a fasciné, qui m'a donné le frisson et même certains émois quand je l'ai lu adolescent. Donc, je conseillerais ça.
Bon, et vous, Chloé Radiguet ?
Moi, je suis très très mal placée pour conseiller. Et puis, je n'ai pas eu les mêmes émois en lisant Le Diable au corps, parce que je ne suis pas un garçon, et que ça n'a pas fait le même écho.
Est-ce que il y a des graphistes, parce que maintenant il y a beaucoup de modes de romans graphiques, mais ils vont pas s'emparer là. Il y a pas de romans graphiques autour de pour l'instant, non.
Non.
Il y a pas. Alors il y a beaucoup de rencontres hein, autour, parce qu'il faut dire que 1923, donc il y a la publication du Diable au corps, et en décembre, le 12 décembre, la mort de Raymond Radiguet. Donc là, cette année, c'est vraiment, on est en plein dans l'année Radiguet. Vous avez des échos de gens, qui viennent vers vous, qui sont. Il y a un club des lecteurs de Raymond Radiguet ?
Non. Alors, non, il n'y a pas de club, mais en tout cas, on est très heureux. On ne s'attendait pas à un tel accueil pour ces deux livres. On est ravis que l'évocation de Raymond Radiguet et réveiller autant de gens, donc il y a en effet des colloques, des conférences, des signatures, dans les médias l'accueil est vraiment extrêmement favorable, et on parle beaucoup de Radiguet à la télévision, à la radio, dans la presse écrite naturellement, enfin vraiment on est très heureux que notre travail ait donné l'idée et l'envie de célébrer Radiguet comme c'est le cas en ce moment.
Il n'y a pas de musée, Raymond Radiguet ? Pas pour le moment ?
Non.
Il pourrait y avoir un lieu où tout soit rassemblé ?
Tout
est ouvert. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à faire.
Oui. Peut-être qu'on va passer la main et que d'autres pourraient prendre le relais, parce que Chloé et moi avons déjà vraiment beaucoup travaillé.
Il y a des rencontres encore en 2024, qui débordent sur janvier.
Vous pouvez les annoncer hein, déjà. Hein.
Et puis, il y a peut-être des surprises de publications à venir, de choses où on se contentera de faire des préfaces, parce qu'on est un peu fatigué.
Et on reviendra vous voir pour vous en parler.
Exactement. Bah, écoutez, je vous remercie l'un et l'autre. Autour donc de ce travail, de cette recherche, parce que c'est pas simple. En plus, vous écrivez, Chloé Radiguet, ça n'a pas dû être simple pour vous. De séparer votre... Voilà, vous avez un oncle très connu. Et puis
C'est vrai que ça a paralysé mon poignet droit pendant assez longtemps. Et que j'ai fait du journalisme, etc. Et puis un peu de radio, et puis j'ai fait du théâtre, mais je me suis pas tout de suite mise devant des feuilles blanches. Ça, c'était un peu paralysant. Et puis après, j'ai écrit sous pseudo.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis voilà. Et puis maintenant, j'écris plus sous pseudo.
C'est bien. Donc, on peut aussi vous lire l'un et l'autre en dehors de Raymond Radiguet.
Oui, absolument.
Donc, c'était Chloé Radiguet, Julien Sand pour Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles. Ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Et puis là, le Maoust, c'est vraiment le best-of, la master pièce, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est très important, c'est les œuvres complètes, donc définitives en principe.
C'est sûr.
S'il y en a une autre, ce ne sera pas par nous.
Non, puis je crois que vraiment, on ne peut plus rien trouver.
De Raymond Radiguet, peut-être qu'il manquerait aussi, je ne sais pas, mais il y a dû y avoir déjà un livre sur les manuscrits, les traces écrites, les dessins de Raymond Radiguet.
Non, justement.
Alors, on a peut-être des projets.
Ah, vous voyez,
dans les projets.
Parce que là, je pense qu'il y a de quoi faire. Merci à vous tous.
Merci.
Et nous allons, je pense, écouter un peu de musique. C'était l'émission Bibliomanie. Vous pouvez nous réécouter via les podcasts sur le site de Radio Libertaire. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Sidney Béchette puisque vous avez beaucoup parlé de Saint-Germain-des-Prés. Petite fleur. Avant l'émission suivante qui parlera de littérature prolétarienne.
Les mots qu'ils disaient sans comprendre, on leur a fait des seul pour s'étendre. Et moi qui étais venu là pour les entendre, j'ai compris qu'il était tard, je suis rentré. Mais les plombiers venaient de piéger ma chambre à l'hôtel de la déroute. Et c'est le diable en personne qui est venu m'apprendre à payer le prix que ça coûte. Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y a les pantins de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Chiquita. Au coin de ta rue, y'a l'homme en gris qui dit rien. Il regarde les néons qui réchauffent les statues des philosophes aux yeux peints. Derrière l'église, il guette un air d'harmonium. Dans sa valise, il cache un vieux métronome. La pauvre Élise lui dit, c'est tout ce que tu me donnes. Et y'a personne ici pour lui dire son chemin. C'est encore loin l'hôtel de la déroute. Et moi mystérieusement je lui réponds, tu sais le prix que ça coûte. Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y'a des poteaux de l'apocalypse qu'on voulait me faire voir trop d'éclipses. Et j'ai froid. Cloche de la mission qui résonne dans ton cinéma. Tu maudis tes passions, tu dis qu'on change rien tant qu'on se change pas. Quand je t'écoute, j'entends que des mots d'ordre. Quand je te touche, tu dis pas de désordre. Quand je dis j'ai pas de camp, tu veux me mordre. T'as jamais pu accepter mon chaos. J'arriverai bien avant toi à l'hôtel de la déroute. Moi je sais pas très bien ce que ça prouvera. Faut toujours payer le prix que ça coûte. Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y'a les pantins de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses. Et j'ai froid. Chiquita.